Chers amis, Hachem Alechem, Tihyo, Leorech, Hamim, Tobim, Shanim, Neimim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vayichi. Nous sommes arrivés à la bracha que Yaakov attribue à Yosef. Alors, que lui dit-il? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaim. Yosef est qualifié de fils qui produit la fertilité, qui produit l'abondance. Il est fertile. Le mot porat, ça vient de la chambre piria. Ce qui indique qu'il compte que lui-même, il est un fils qui fructifie. Non seulement il est fertile, c'est un rameau fertile, mais en plus, il procure aux autres la fertilité, il fructifie. Il est le fils par excellence de la fertilité. À ce sujet, alors il dépasse, alors c'est répété à deux fois, ben porat Yosef, ben porat aleaim. Que signifie aleaim? Aleaim, il fait monter la source. Il fait jaillir la source. Aïn, c'est la source enfouie au profond qu'il fait jaillir des profondeurs. Une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Banot Saada, Alécho. Alors, les filles montent sur le mur pour l'observer. Alécho, c'est-à-dire, elle porte son regard sur lui. Alors, les Chachamim disent que Yosef était tellement beau qu'en Égypte, toutes les filles montaient sur la muraille lors de son passage ou sur un mur, de sorte de pouvoir observer sa beauté et d'être inspiré par sa beauté. Que la beauté de Yosef, il était rayonnant, ça signifie qu'il était rayonnant. La beauté jaillissait comme lui-même est capable de faire jaillir la source d'eau vive de ses profondeurs. De même, il rayonnait, sa beauté rayonnait sur tout celui qu'il observait. Donc les filles essayaient d'attirer sur elles, de saisir un peu de sa beauté. Ça, c'est la définition que donne le verset de la grandeur de Yosef. Après, il est dit, Vaimarou, Varovu. Donc, ils l'ont rempli d'amertume. Ils ont déversé sur lui l'amertume. Et ils l'ont combattu. Ils se sont battus contre lui. Vaistemouhou ba'alechetim. Et les archers, ceux qui lancent au loin les flèches, leurs flèches, alors l'ont pris en haine. Il s'agit de ses frères. Et pas uniquement. C'est-à-dire que cette haine va poursuivre Yosef. On va remarquer qu'il va être pris en grippe par Potiphar après que sa femme l'ait accusé du pire. Puis quand le maître chanson va l'oublier, il va le dédaigner. Donc on voit que chez Yosef c'est quelque chose de récurrent. Vateshev be'etan kashto, vayapozu zeroei yadav, midei aver Yaakov, misham roei even Israël. Alors que signifie cette phrase? Que signifie cette bracha? Alors c'est la ma'ala ici, il est bien qualifié, il est bien décrit la grandeur de Yosef. Alors il a dominé, il a Bateshev be'etan kashto signifie que son arc fait référence, l'arc, il s'agit de donc son arc, ça veut dire il s'agit de sa sexualité. Il a réussi tout en étant séduit, il a réussi à se dominer, à dominer la tentation et son arc. L'arc fait référence à à la relation qui envoie à l'objet, au membre, qui envoie la goutte de semence qui va ensemencer. Donc il a maîtrisé cette goutte, cet arc. Il a maîtrisé son désir. Il a réussi à le dominer, à le maintenir sans qu'il ne se tende pas. Et alors, toute cette énergie, où est-elle passée? Alors, voyez, Fozou Zeroué Adam, cette énergie-là qu'il a réussi à dominer, elle est remontée, elle s'est diffusée dans tout le reste de ses membres, dans ses bras et dans ses membres. Donc c'est une allusion au fait qu'il a réussi à dominer la tentation et la séduction continuelle jour après jour de la femme de Potiphar. Donc c'est cette ma'ala, c'est cette qualification, cette description de la grandeur de Yosef qui va lui attribuer sa grandeur. C'est à travers cela que Yosef va devenir l'exemple du tzaddik. C'est à partir de là qu'on va attribuer, que la Torah va attribuer, les Chachamim vont attribuer à Yosef la qualité de tzaddik, qui ne se laisse pas, qui arrive à dominer. Alors ces énergies-là, alors elles sont à canaliser, à les faire remonter dans le corps, de telle sorte qu'elle arrive à renforcer le reste de sa personnalité. Voyafozu zeroé yadav, midé avir Yaakov, misham roé even Israël. Alors donc ça remonte. Alors, comme on l'a dit, son arc donc est resté plein de rigueur, de vigueur. Il n'a pas perdu sa vigueur, il n'a pas disséminé, il n'a pas dispersé sa force. Et c'est son corps, c'est le reste de ses membres qui s'en sont renforcés. Et par les mains d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu de Yaakov, qui est ici appelé Abir, Midé Abir Yaakov, Misham, Roé, Even Israël. Alors, c'est la bracha que Akadosh Baruch Hu, de par cela, le Avir Yaakov, le Dieu, le puissant de Yaakov, alors va lui accorder la pierre, il va lui donner une pierre, un soutènement, quelque chose d'une force, une assise au-dessus des profondeurs des abîmes. Donc on lui a mis, il aurait pu dégringoler au plus profond des abîmes, et là on a placé de cette force-là, s'est construit un soutènement, une pierre, une dalle qui l'empêche de tomber, au contraire, par laquelle il va s'élever. C'est la bracha de Yosef de manière exceptionnelle. Donc on voit ici qu'à travers cette bracha, Yaakov Avinu accorde, exprime la préférence qu'il a pour ce fils Yosef, qui s'est maintenu, surtout que après sa disparition pendant 20 ans, il s'est maintenu tel qu'il était. Donc c'est cette énergie qui va le placer au-dessus de ses frères, et c'est ça la madriga à laquelle atteint, que Yosef atteint, celle d'être qualifié de Yesod. Le Yesod, il est au-dessus. C'est le Yesod, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui est dans la fonction de diffuser les énergies pour les canaliser, les diffuser, les déverser dans le Malchut. Le Malchut qui est le réceptacle, qui est en fait la Shekhina. C'est l'ensemble de la multitude d'Israël. Et en l'occurrence, le Malchut, c'est ses frères. Cependant, dans la Gemara, il est mentionné qu'en fait, tout en dominant sa passion, ces énergies-là, elles sont en parallèle avec Zeruah Yadav. ce que les mains sèment, la semence de ses mains. Et il fait allusion aux 10 doigts des mains. Alors, Chachamim dit qu'en fait, Yosef, il aurait dû donner naissance à 12 tribus. Mais ces énergies-là, qui sont qualifiées ici de zéro à Yadav, ont été perdues. Certes, elles n'ont pas été disséminées, les étincelles de Kdusha n'ont pas été disséminées, mais comme si elles lui étaient sorties par les doigts, par les 10 doigts de ses mains. C'est-à-dire que c'est lui qui les a, c'est lui qui s'en est renforcé, mais elles ont été employées déjà, utilisées. Donc qu'est-ce qui lui reste? Il lui en restera que 2. Donc c'est ça ce qu'il a eu. Il a eu Ephraim et Menaché, alors qu'il aurait dû donner naissance à 12. Et les tribus, en fait, auraient dû sortir de Yosef. Il y a une idée que Yosef étant la continuité de Yaakov, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, elle est Toldot Yaakov Yosef, c'est Yosef qui aurait dû donner naissance à 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Mais comme cette énergie-là a été employée, donc il va se retrouver qu'avec 2 enfants qui seront 2 enfants, 2 tribus parmi les 12 d'Israël. Mais ça n'empêche pas que Yosef, il est toujours dans cette position d'être le conduit par lequel les 12 tribus d'Israël reçoivent les flux et les énergies qui leur viennent des pères. Abraham, Isaac, Yaakov, et Yosef est le canal du milieu qui les reçoit et qui les déverse. Et là, il est dit, Birkot Avicha, Gavual Birkot Orai, les bénédictions de ton père dépassent celles de mes ancêtres. Orai. Alta Vad Givaot Olam, elles atteignent les Givaot Olam, les montagnes, les collines du monde éternel. Tiena les roches Yosef, elles se déverseront sur la tête de Yosef, ou le kodkod nezir echav, et sur le haut, sur le front de la couronne de ses frères. Donc Yosef, il est qualifié ici la couronne de ses frères. Alors de quelle brachot il s'agit? En vérité, la bracha que Yaakov il a reçue, la bracha, la promesse que Yaakov a reçue, et comme il dit, donc il lui a donné Isaac l'a béni mital hashamayim mishmane haaretz, donc de rosées des cieux et de la fertilité de la terre. Et après, quand il va en chemin et que Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, il dit, il lui dit, tu vas te développer, aller au-delà, t'étendre, etc. Des brachot qu'il reçoit dans la vision de l'échelle. Ces brachot-là, il ne les a jamais utilisés. Il ne les a, d'ailleurs, même les brachot de Yitzhak, il ne les a jamais utilisés. Alors, il attendait le moment propice. Il pensait les laisser comme un capital qui sera utilisé à la fin des temps. À qui va-t-il les octroyer? Y a-t-il quelqu'un de plus apte que Yosef? Y a-t-il quelqu'un de plus apte que Yosef qui devrait les récupérer? Alors il les accorde à Yosef. Yosef étant le tzaddik, c'est à lui que Yaakov octroie, attribue ces brachot-là. Donc il les a gardés en capital, enfoui, qui l'utilise attendant le moment propice. Alors il choisit de les donner à Yosef parce que c'est le plus digne et le plus capable de les employer. En effet, parce qu'il est tzaddik. Mais il y a une autre madriga, c'est que quand Yosef il obtient quelque chose, il l'obtient pas pour lui. Yosef, c'est du fait qu'il est tzaddik, il n'utilise pas ses énergies, sa position, les brachot qu'il reçoit pour son propre intérêt. Au contraire, la définition du tzaddik est celui qui va partager, diffuser aux autres, permettre aux autres de jouir de son mérite. C'est ça la divinité du tzaddik. Tzaddik, c'est celui qui n'a rien pour lui. Il ne fait rien pour lui. Il fait toujours pour les autres. Et il partage son mérite. Et c'est la qualité particulière de Yosef. Alors, on comprend pourquoi Yaakov choisit de déverser, d'attribuer, de confier ces brachot là exceptionnelles, celles qu'il a reçues de Yitzhak, donc elle contient aussi celles d'Avraham, celles que lui-même a reçues directement, la promesse que Dieu lui a faite, « Ufarasayam avakedma vetsavona vanekba venivrechou becha kol mishpirata » C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette bracha-là, qu'il attend, qu'il destine à la fin des temps, au moment les plus difficiles, il a confié à Yosef. Parce que Yosef, il sait pertinemment que selon la madriga de Yosef, Yosef ne l'emploiera pas de manière personnelle, mais pour le bien de tous, au moment opportun. Ça, c'est l'idée qui est, donc Yosef, il est bien dans sa fonction, dans sa, la vertu qui lui est octroyée convient parfaitement à cette idée du partage des brachot. Donc il est digne d'être le détenteur ou le dépositaire de cette bracha, celle de Yaakov. Après ça, il y a la bracha de Binyamin. Il dit Binyamin zev itraf. Binyamin est un loup qui attaque, qui cherche la proie. Binyamin Zef Itraf. Itraf, c'est-à-dire, il déchire sa proie. Baboker Yochalad. Le matin, il dévore sa proie. Olaereb Yahalek Shalad. Et le soir, il partage son butin. Alors, de quoi? Alors, certains Rishonim attribuent à Binyamin le concept du loup-garou. Il est homme et loup. Donc, il se transforme. Quand il faut, il est un homme, et quand il faut, il agit comme un loup. Alors nous allons voir de quoi, quelle est la nekuda, quel est le point intéressant dans cette ces deux aspects de Binyamin. Ça reviendrait à dire, Binyamin Jevitraf. C'est comme si qu'il dit quand le loup l'attaque, alors il s'accapare les qualités. Le loup serait l'agresseur, qui viendrait s'en prendre de Binyamin, et lui-même, il est suffisamment fort pour récupérer, donc convaincre son agresseur et récupérer ses énergies. C'est lui, c'est Binyamin qui va être Toref, qui va dévorer le loup. Donc il devient lui-même il ingère les forces du loup pour les canaliser dans le bien. Autre référence à cela, il s'agit le Mizbéar est en partie construit sur le territoire de Binyamin. Et il s'agit ici des sacrifices qui procurent à Israël le pardon. Et c'est grâce au sacrifice, le Mizbéar lui-même est comparé à un lion. Il est appelé Ariel. C'est le Mizbéar lui-même, l'autel lui-même, qui consume les korbanot. Et cette dimension, elle est placée dans le territoire de Binyamin. Alors le feu céleste sans cesse consume. Il y avait des brasiers sur le Mizbéar, mais ces brasiers-là étaient nourris du feu céleste, qui permettait l'accapara, le pardon, ça pardonnait les péchés et ça a procuré les brachot à Am Israël. Et c'est cette madrigala qui est attribuée à Binyamin. C'est pour ça qu'il dit, Babokar yochalat, mais la erev yahalek shalat. Le matin, il mange sa proie. Donc, le matin, comme les sacrifices étaient consumés toute la nuit, alors le matin, ça procurait au matin, donc les énergies nouvelles, renouvelées, étaient attribuées à Israël. Donc ils avaient une part supplémentaire, augmenté, amplifié. Et le soir, il partage le butin. Donc c'est l'idée que quand on reçoit dans la journée les énergies, alors le soir, comme nous avons dit à plusieurs reprises, que le jour, chaque jour est un jour particulier. En fait, le jour, est, ce sont des énergies qui sont attribuées au jour en question. Donc, durant toute la matinée, alors ces énergies-là sont diffusées et les hommes les saisissent l'après-midi. C'est pour ça que la prière du matin, elle est longue et la prière de Mincha, elle est courte. C'est le temps de la diffusion, c'est le boker. C'est ça qui a marqué Vayere, Vay boker, Yom Echad. Le Yom, il est essentiellement le boker. Parce que c'est pendant le matin que les énergies se diffusent, jusqu'au moment où le soleil atteint son zénith. Comme c'est la fameuse question que Anthony nous a demandé à Rabbi, le soleil devrait se coucher quand il arrive au zénith. Et donc, alors l'après-midi, à quoi ça sert? Alors, on dit, imagine que l'après-midi, elle sert au partage. Chacun va se saisir. Donc, si pendant la nuit, il y a une consommation sur le Mizbéar, qui est dans le territoire de Benjamin, des corbanotes, ça procure le pardon. Donc, les énergies du lendemain vont être amplifiées. Et au soir, donc, dans l'après-midi, il va partager. Ces énergies seront partagées. Et Halek Shalal, chacun saisira ce qu'il peut saisir, ce qu'il doit en saisir, et les attribuera et en fera quelque chose de positif. Il va utiliser ces énergies-là pour les réparer, pour les consacrer à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la madriga de c'est la bracha qui est attribuée à Binyamin. Baruch Adonai Eleolam, Amen ve'Amen.